Bonjour, mes frères, je suis ravi de vous voir tous ici, et je souhaite la bienvenue aux visiteurs qui sont arrivés juste avant le début du festin. Comme Monsieur Schlöffel le sait, je suis un homme très prolixe et verbeux. Il m'a volé de nombreuses minutes de mon sermon divisé en deux parties cet après-midi. Je pense qu'il m'a peut-être accordé un peu plus de temps. Je ne sais pas ce qu'il avait en tête, mais je suis sûr que nous remplirons ce temps. Encore une fois, bienvenue à tous les visiteurs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bienvenue au siège social, et nous attendons avec impatience ceux qui vous rejoindront dans quelques jours. Le campus est vraiment à son apogée. Dieu nous a donné de la pluie pendant la fête des trompettes et a rendu l'herbe verte, redonnant vie au campus. Le campus est vraiment magnifique, et ce n'est pas grâce à nous, mais grâce à Dieu, et c'est merveilleux que vous puissiez tous en profiter. J'attends avec impatience tous les autres frères qui le verront dans quelques jours. Nous allons traverser les mers pour célébrer la fête en Belgique et voir tous les frères là-bas, et nous nous en réjouissons également. Le message lui-même sera approprié. Pour ceux d'entre nous ici dans la salle qui n'ont pas encore célébré la fête, le sujet sera très approprié. Peut-être qu'à certains moments du message, je mentionnerai que ma femme me rappellera peut-être pendant notre voyage certaines choses dont je parlerai cet après-midi. Vous pouvez également en prendre note, mais cela conviendra aussi très bien à ceux qui seront là après la fête. Après la fête, lorsque nous serons tous rentrés chez nous, si nous sommes tous rentrés chez nous, le sujet sera très approprié. Je vais donc prendre un moment, et nous allons nous plonger dans le vif du sujet. On dit souvent que la gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais qu'elle est aussi la mère de toutes les autres vertus. Gardez cela à l'esprit, la façon dont nous construisons notre raisonnement, mais gardez cela à l'esprit. La gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais aussi la mère de toutes les autres. Passons maintenant à une citation qui ne provient pas de la Bible. Passons maintenant à la Bible. Passons à la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Cet après-midi, nous allons discuter du thème de la gratitude, et dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Verset 18, nous allons apprendre ce que Dieu dit, ou un élément de ce que Dieu dit. Tout d'abord, nous avons souvent lu, nous avons peut-être souvent lu, nous connaissons peut-être bien, en toute chose, rendez grâce. Car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Donc, en toute chose, rendez grâce. C'est la volonté de Dieu en nous, pour nous, que nous rendions grâce en toutes choses. Maintenant, qu'est-ce que la gratitude, et qu'est-ce que rendre grâce? Dans la langue vernaculaire anglaise, ou dans la façon dont nous utilisons ces mots aujourd'hui, la gratitude n'apparaît en fait pas dans la Bible. Le mot lui-même n'apparaît pas dans la Bible, il n'est utilisé nulle part dans les Écritures. Nous allons apprendre que sa signification et sa nature apparaissent clairement dans les Écritures. Mais qu'est-ce que rendre grâce, et qu'est-ce que la gratitude? Comment les utilisons-nous aujourd'hui? Parfois, d'une certaine manière, la reconnaissance n'est qu'un sentiment momentané, c'est quelque chose qui est généralement en réponse à une action. Quelqu'un nous tient la porte ouverte, nous disons merci. Quelqu'un nous conduit quelque part, nous disons merci. Quelqu'un fait quelque chose pour nous, nous le remercions. Nous avons probablement tous eu des parents qui nous ont appris à dire s'il vous plaît et merci. Ils veillaient à ce que nous le fassions, à ce que nous ne, à ce que nous demandions s'il vous plaît et à ce que nous disions merci quand on nous donnait quelque chose. Mais qu'est-ce que la gratitude? La gratitude, la façon dont nous l'utilisons, la gratitude telle qu'elle est définie dans notre société ou dans notre esprit, dans l'anglais d'aujourd'hui, C'est un état d'esprit qui consiste à remarquer et à apprécier quelque chose de bien. Que ce soit chez les gens, dans un cadeau offert ou dans quelque chose qui a été fait. C'est la gratitude et le fait de voir la croissance. C'est la gratitude et le fait de voir ou un état d'esprit qui consiste à remarquer et à apprécier le changement. Peut-être que lorsqu'il s'agit de difficultés, il faut comparer les deux. La reconnaissance, d'une certaine manière, peut être limitée. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne, bien sûr. Nous disons merci quand quelqu'un fait quelque chose pour nous. Nous devons être polis, nous devons être reconnaissants. Mais dans un sens, ce n'est que bref, ce n'est que momentané, ce n'est qu'une action rapide en raison d'un événement positif. En raison de quelque chose qui a été fait pour vous, nous dirons souvent merci. La reconnaissance est plus large, elle dure, elle apprécie les changements, c'est une façon de voir les choses. Si la reconnaissance et le fait de dire merci sont des actions, l'attitude ou la gratitude est une attitude qui se cache derrière. Nous en apprendrons davantage à ce sujet. Dire merci est un acte ponctuel. C'est une action, comme je l'ai mentionné. La reconnaissance est continue, elle se souvient peut-être d'instructions, elle se souvient de ce qui a été fait. Elle sert, elle donne, elle est active dans nos prières. Quels sont quelques exemples comparables à ce que nous venons de voir? Quel est un exemple de, quels sont quelques exemples? Merci de m'avoir conduit. J'ai déjà utilisé cela auparavant. La gratitude serait, je suis reconnaissant d'avoir des amis qui veillent les uns sur les autres et s'entraident en cas de besoin. Je suis sûr que vous voyez la différence entre les deux. L'un consistait à dire merci pour quelque chose qui a été fait, l'autre consistait à avoir l'état d'esprit selon lequel vous avez un groupe d'amis ou une communauté qui veille les uns sur les autres et subvient aux besoins les uns des autres. C'est un peu différent. C'est un peu plus profond. Ou bien vous êtes heureux qu'un problème soit résolu, vous êtes reconnaissant qu'un problème soit résolu, qu'un problème soit passé. À quoi ressemblerait une attitude de gratitude? Qu'est-ce que la gratitude? Être reconnaissant pour ce que j'ai appris des difficultés que je viens de traverser. Être reconnaissant pour la façon dont j'ai grandi grâce aux difficultés que je viens de traverser. Ce sont deux choses différentes. Deux approches différentes. À partir de là, je suis sûr que vous pouvez voir la différence entre être reconnaissant et avoir de la gratitude. Être reconnaissant. Passons à Colossiens 3, verset 15. Nous arrivons à un point important. Colossiens 3, verset 15. Voici quelques éléments de contexte sur le fait d'être reconnaissant, le contexte de la pensée de Dieu. La pensée de Dieu va au-delà du simple fait de dire merci. Lisons, et que la paix de Dieu règne dans vos cœurs. Notez bien le mot « paix », nous y reviendrons. C'est à cela que vous avez été appelés dans un seul corps, et soyez reconnaissants. Il n'est pas dit « soyez reconnaissants ». Que la parole de Dieu habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Donc, se réjouir, s'exhorter les uns les autres, s'encourager les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chanter. Quelle image! Ce n'est pas nécessairement le message principal, mais c'est une image intéressante dans les Écritures pour nous tous. Et quoi que vous fassiez, verset 17, en parole ou en acte, donc quoi que vous et moi fassions, que ce soit en parole, ce que nous disons, ce que nous faisons, nos actions, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père par lui. Ainsi, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, rendons grâce, Soyons reconnaissants, ayons de la gratitude envers Dieu et le Père par lui, dans tout ce que nous faisons. Gardez cela à l'esprit, cela va au-delà de rendre grâce en toute chose. Ici, nous voyons que dans nos paroles et nos actes, nous devons rendre grâce, être reconnaissants par nos actions et nos paroles. Pour en revenir à la déclaration avec laquelle j'ai commencé, la gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais aussi la mère de toutes les autres. Cet après-midi, nous allons examiner les fruits de l'esprit, et nous allons, comme un fil conducteur, il y a de nombreux fils qui relient les fruits de l'esprit entre eux. Nous allons examiner les fruits de l'esprit et voir comment la gratitude est un fil qui les relie tous. Bien sûr, vous pouvez regarder les fruits de l'esprit et voir que les fruits de l'esprit sont l'esprit de Dieu. Ils sont tous des éléments de la façon dont Dieu pense. Ils sont tous des éléments qui montrent l'amour de Dieu. Il y a beaucoup d'autres choses, ce sont deux autres fils conducteurs ou deux autres éléments. Ils sont présents dans tous les fruits de l'esprit, mais aujourd'hui, partant de cette affirmation que la gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes, je voudrais examiner avec vous, dans la parole de Dieu, tous les fruits de l'esprit et la manière dont ils contiennent tous un élément de gratitude. Allons à Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Nous avons tous lu cela plusieurs fois, les fruits de l'esprit. Nous les connaissons tous bien. Certains d'entre nous s'en souviennent peut-être. Je dois raconter cette histoire. Elle est sortie de la bouche d'un enfant. Nous avons organisé un pique-nique estival. Nous avons organisé le deuxième pique-nique estival de cette année au siège social, et nous avons organisé l'Amazing Grace. Et pendant une partie de l'Amazing Grace, nous avons dû énumérer les fruits de l'esprit. Et nous y voilà. Vous pensez, d'accord, oui, Monsieur Denis était dans le groupe, donc je suis pasteur, je devrais les citer comme ça. Vous pensez que les autres personnes présentes, qui suivent le chemin de Dieu depuis de nombreuses années, seraient capables de réciter tous les fruits de l'esprit en un clin d'œil. Non, ce n'était aucun d'entre nous. C'est une adorable petite fille, la fille des Fraser, qui a récité les 9 sans se tromper. C'était un moment très touchant. Je veux dire, nous devrions tous être comme elle, mais c'était vraiment un moment très touchant de la voir les réciter tous. C'était un exemple de ce que ses parents faisaient avec elle. Mais lisons ensemble ces versets. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Eh bien, regardons cela. Examinons les 9 dans le temps qui nous est imparti, et voyons comment derrière chacun d'eux se cache un élément de gratitude. Le premier, l'amour, c'est l'amour agapé, l'amour divin. Allons à Luc 7, verset 47. Je vais en fait lire les versets 44 à 50. Un exemple d'amour qui a été manifesté, d'attention qui a été manifestée, car nous devons nous aimer les uns les autres, nous devons avoir un amour fraternel les uns pour les autres. L'amour qui a été manifesté à Christ, l'action physique, l'amour divin de Christ qui a été manifesté à la femme dans cette série de passages bibliques, comment cela se rapporte à ce que nous examinons, la gratitude. Lisons donc. Commençons à lire au verset 44. Être reconnaissant, être reconnaissante envers quelqu'un qui était là, c'est ce qu'a fait cette femme. Elle a servi, elle s'est occupée, elle a pourvu aux besoins, et finalement, Christ lui a donné quelque chose. Lisons. Au verset 44. Et il se tourna vers la femme et dit à Simon, juste pour replacer cela dans son contexte, Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Exemple. Leçon à tirer. Je suppose que le Christ enseigne ici à Simon, et à travers les Écritures, il nous enseigne à tous. Vois cette femme, je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. À l'époque, il portait des sandales, il marchait dans la poussière du Moyen-Orient, dans la poussière de la rue. Tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Tu n'as pas nettoyé la poussière de mes pieds, mais elle a lavé mes pieds avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Pouvez-vous imaginer cela? Pouvez-vous imaginer le service rendu par cette femme au Christ, un enseignant, Dieu incarné, le respect qu'elle lui a témoigné? Au verset 45, le Christ poursuit, « Tu ne m'as pas donné de baiser, mais cette femme, depuis que je suis venu, n'a cessé de baiser mes pieds. » Cela nous mettrait peut-être un peu mal à l'aise, à notre époque. Dans cette culture et à cette époque au Moyen-Orient, c'était une marque de respect. Verset 46, « Tu n'as pas oint ma tête d'huile, tu ne m'as pas rafraîchi, Simon, mais cette femme a oint mes pieds d'un parfum, elle a oint le Christ. C'est pourquoi je te dis que ses nombreux péchés sont pardonnés. L'amour que le Christ lui témoigne, car elle a beaucoup aimé. Elle aimait et prenait grand soin du Christ, elle a montré sa gratitude envers le serviteur qui est entré dans la pièce, le Fils de l'homme, le Christ, Jésus-Christ, qui est entré dans la pièce, elle a pris soin de lui, elle l'a servi, elle l'a aimé. Le Christ l'a aimé en retour. Car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Dieu lui a finalement pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé, et il lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Verset 49. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne aussi les péchés ?» Alors, qui est-ce ? Ils ne voyaient pas qui c'était, ils ne comprenaient pas encore qui c'était. Et au verset 50, « Et il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. Nous y reviendrons. Mais nous sommes tous reconnaissants pour tout ce que Dieu fait pour nous, pour tout l'amour que Dieu nous porte. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que Dieu fait pour nous. Nous aimerons davantage Dieu, et nous aimerons davantage notre prochain. Passons au suivant, la joie. Passons au psaume 107, le fruit suivant de l'esprit. Rappelez-vous, nous venons de voir que le fruit de l'esprit est l'amour, voyons maintenant que le fruit de l'esprit est la joie. Passons au psaume 107. Lorsque nous lisons les Écritures, vous vous demandez peut-être pourquoi nous sommes allés ici. Je vais vous expliquer. Psaume 107, verset 22. Psaume 107, verset 22. Inaudible minuendix 8 et 5 secondes. Ceux qui étaient en retard, ceux d'entre nous qui attendent avec impatience la fête, cela s'applique à ceux d'entre nous qui attendent la fête, nous regardons également en arrière ce que nous avons fait, et qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Qu'ils, au passé, ceux qui ont fait des offrandes, qu'ils sacrifient le sacrifice d'action de grâce, le sacrifice de gratitude envers Dieu, la reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour nous, et proclame ses œuvres avec joie. Ainsi, en offrant des sacrifices, en faisant des offrandes, nous devons proclamer ses œuvres avec joie. Ainsi, les sacrifices que nous offrons et les offrandes pendant les jours saints, en regardant en arrière, nous proclamons les œuvres de Dieu avec joie, avec allégresse. C'est peut-être un peu plus facile, laissez-moi vous expliquer, pour nous de donner nos offrandes, ou les fonds, ou l'argent qui se trouve sur notre compte, comme une bénédiction, alors que nous comptons nos bénédictions, mais cela devrait aussi être un sacrifice, cela devrait faire un peu mal, mais il est intéressant de voir ce que Dieu dit, nous proclamons ses œuvres, Nous proclamons toutes les bénédictions qu'il nous a accordées tout au long de l'année, et nous nous réjouissons. Mettez-vous à la place d'un ancien Israélite, leur sacrifice d'action de grâce, leur sacrifice de reconnaissance était peut-être le petit agneau qui les suivait partout. Le petit agneau qu'ils nourrissaient. Le petit agneau qui mangeait l'herbe dans leur pâturage, celui dont ils prenaient soin, celui que Dieu leur avait finalement donné, était peut-être leur sacrifice. Dieu leur a donné ce petit agneau, ou tout autre animal qu'ils ont offert en sacrifice, Dieu a donné la vie à ce petit agneau, ou s'il s'agissait d'une colombe, ou d'autres sacrifices de l'époque, à quel point cela aurait-il été difficile à offrir? Mais la seule façon dont ils auraient pu le donner, c'était si Dieu les avait bénis avec des animaux, les avait bénis avec de la nourriture, les avait bénis avec la pluie, les avait bénis avec le soleil, avec des pâturages et de l'herbe pour nourrir leurs animaux. À quel point leurs sacrifices auraient-ils été plus difficiles? Mais en fin de compte, que signifiaient ces sacrifices? Que nous signifient-ils lorsque nous les faisons aujourd'hui? Les bénédictions que Dieu nous a accordées. Être reconnaissant pour toutes les bénédictions que Dieu nous a accordées, se réjouir, avoir de la joie. Nous allons à la fête pour apprendre à nous réjouir et à craindre Dieu, après quoi, tout ce que nous avons appris restera dans nos esprits, et nous emporterons cette joie avec nous. Être reconnaissant pour tout ce que Dieu fait pour nous. Cela nous apportera, cela devrait nous apporter une grande joie si nous avons cet état d'esprit. Passons au suivant. La paix. Passons à 1 Timothée 2, verset 1 à 3. 1 Timothée 2, verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 3. Nous avons entendu parler de l'amour, nous avons lu sur la joie, lisons maintenant sur la paix. Qu'en est-il de la gratitude? Qu'en est-il de notre gratitude dans la paix? Ou comment la gratitude nous apporte-t-elle la paix? Nous allons passer à 1 Timothée 2, verset 1. Nous y sommes presque. Première épître à Timothée, chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc, avant tout, à faire de toutes sortes de prières, de supplications, de requêtes et de remerciements pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Passons au verset 1. J'exhorte donc, avant tout, j'exhorte, c'est pour nous tous, avant tout, à faire toutes sortes de prières, de supplications, d'intercessions et d'actions de grâce pour tous les hommes. C'est ce que nous devons faire. Nous devons rendre grâce, en quelque sorte, rendre grâce pour tous les hommes, afin que nous puissions vivre paisiblement, que nous puissions mener une vie tranquille et paisible, avoir la paix. Mais rendre grâce pour tous les hommes qui nous entourent, je dirais tous les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, nous devons rendre grâce pour eux. Quelles que soient les décisions qu'ils prennent, c'est Dieu qui leur a donné leur autorité. Quelles que soient leurs origines, leurs tendances, je sais que dans les différents pays d'où nous venons tous, nous avons tous des dirigeants différents. Ces dirigeants ont des approches différentes. Ces dirigeants ont des priorités différentes. Mais nous devons rendre grâce pour tous les hommes, afin que nous puissions vivre en paix, afin que nous puissions avoir la paix. Rendons grâce. Nous devons être reconnaissants envers tous les hommes qui détiennent l'autorité, afin de pouvoir vivre en paix. Passons au psaume 34, verset 14. En plus de rechercher la paix, ou la paix ici, le fruit de la paix, nous devons prier pour tous les hommes, nous prions pour tous ceux qui détiennent l'autorité, afin de pouvoir vivre en paix, être reconnaissant qu'il soit là. Cela doit être difficile. Parfois, ils ne prennent pas les décisions qui nous semblent judicieuses. Peut-être que ces décisions sont prises, sont là, nous avons parlé de gratitude, d'apprendre du caractère des adultes, de traverser des moments difficiles, de passer par des épreuves. Peut-être y a-t-il des choses que nous pouvons apprendre d'eux. Les hommes de ce monde, nous pouvons certainement apprendre de leurs erreurs. Nous pouvons apprendre à grandir en caractère lorsque nous sommes sous leur autorité, car nous sommes censés nous soumettre à leur autorité. Voyons dans le psaume 34, verset 14. En fait, la deuxième moitié du verset, la paix, nous devons être reconnaissants envers tous les hommes, mais la paix ici, éloignez-vous du mal et faites le bien. Recherchez la paix et poursuivez-la. Nous sommes censés rechercher la paix. Et si nous recherchons la paix en étant reconnaissants, plus nous sommes reconnaissants, plus nous aurons de paix. Si nous cherchons à être reconnaissants pour tout ce qui est dans notre vie, nous rechercherons la paix. Le fruit suivant de l'esprit est la patience. Passons à Jacques 1. La patience, j'y ai fait allusion un peu plus tôt, mais la gratitude recadre notre façon de voir les épreuves. Regardez les moments difficiles, regardez les choses ou les problèmes qui ne se passent pas forcément bien. Nous pouvons en tirer des leçons. Nous pouvons grandir grâce à elles. Nous pouvons peut-être apprendre une leçon sur la décision que nous avons prise et qui a provoqué l'épreuve. Nous pouvons apprendre à ne plus prendre cette décision, à ne plus agir de cette manière. Si cela échappe à notre contrôle et qu'une épreuve nous arrive, les files d'attente pour l'ISA pour ceux d'entre nous qui ont voyagé dans les aéroports étaient plus longues que nous le souhaitions parce que les membres du Congrès ne s'entendaient pas. Eh bien, peut-être aurions-nous dû faire preuve d'un peu plus de gratitude, d'un peu plus de reconnaissance pour ce que nous avons autour de nous, d'un peu plus de patience. J'espère, alors que je m'adresse à vous avant le festin, que je ne parle pas de ces choses comme si elles allaient se produire. J'espère que Dieu nous facilitera le voyage après le festin, mais je suis sûr qu'il y aura des choses pour lesquelles nous devrons faire preuve de plus de patience. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu, ou ne se sont pas toujours passées comme prévu, mais la gratitude nous aide à voir ces épreuves sous un autre angle. La gratitude nous aide à voir comment nous pouvons grandir grâce à elle. Nous en sommes tous là maintenant, dans Jacques 1 à 2, mes frères, considérez comme une joie. Nous venons de parler de la joie tout à l'heure. Ici, nous parlons en quelque sorte de la longanimité, de la patience. Mes frères, considérez comme une joie lorsque vous tombez dans des tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Ces épreuves, ces tentations, ces épreuves de notre foi produisent la patience, produisent la longanimité en nous, nous aident à grandir dans ce fruit de l'esprit, nous aident à développer ce fruit de l'esprit. Mais que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfait et complet, afin que vous soyez parfait, complet et ne manquez de rien. Donc, en fin de compte, un peu de longanimité, quelques épreuves qui nous aident à grandir dans le caractère divin, quelques épreuves qui nous aident à grandir dans tous les fruits de l'esprit, quelques épreuves qui nous aident à être un peu plus reconnaissants pour eux, car ils nous aident à grandir dans la patience. Donc, en fin de compte, que pouvons-nous être? Afin que vous soyez parfait et complet, ne manquant de rien. À quoi cela ressemble-t-il? Que nous puissions finalement faire partie de la famille de Dieu. Nous pouvons être là au moment du changement, devenir un fils de Dieu, faire partie de la famille de Dieu, devenir parfait. Pour cela, nous devons endurer ces moments de longue souffrance. Nous devons être reconnaissants pour ces moments, afin de grandir en caractère, afin de grandir en patience, afin d'avoir un peu plus de ce fruit de l'esprit. Passons au suivant, la douceur ou la gentillesse. Passons à Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens 4, verset 32. Et nous voici à la fin du chapitre. Je vous lis le texte. Soyez bons les uns envers les autres, ayez un cœur tendre, pardonnez-vous les uns aux autres, comme Christ, comme Dieu, pour l'amour de Christ, vous a pardonné. Alors, combien de bonté, combien de douceur Dieu nous a-t-il donné? Il nous a pardonné tout ce que nous avons fait. Il a été bon envers nous pour tout ce que nous avons fait, de manière incommensurable. Alors, à quel point devrions-nous être reconnaissants envers les autres? À quel point devrions-nous être bons les uns envers les autres? Tendres de cœur, indulgents. À quel point devons-nous être bons, tendres et indulgents les uns envers les autres? Même si parfois, ils nous agacent. Cela peut parfois arriver avec nos frères et sœurs. Cela peut parfois arriver dans le monde. Que pouvons-nous en tirer comme leçon? Que pouvons-nous changer dans notre approche? Comment pouvons-nous considérer cela et être reconnaissants pour le moment présent afin d'apprendre à être plus bons, afin d'apprendre à être plus doux? Regardons le verset juste au-dessus, le verset 31, près d'une liste de versets. Il juxtapose ce que nous lisons, juxtapose ce que nous apprenons en parcourant les fruits de l'esprit. Et pendant que je lis ces mots, essayez de les intégrer quelque part. Comment intégreriez-vous la gratitude dans l'un de ces mots? Comment intégreriez-vous le fait d'être reconnaissant dans l'un de ces mots? C'est justement le verset qui introduit ce que nous venons de lire. Lisons-le. Que toute amertume, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute méchanceté soient ôtées de chez vous. Où pourrions-nous donc trouver la gratitude, la reconnaissance? Dans l'amertume, dans la colère, dans la clameur, dans la calomnie, dans la méchanceté? Je parle en quelque sorte par plaisanterie. Comment est-ce possible? Bien sûr que non. C'est rhétorique. Il est impossible de montrer de la gratitude dans l'un de ces mots. Nous pourrions être reconnaissants pour l'amertume. Non, nous ne pouvons pas avoir cela en nous. C'est le contraire des fruits de l'esprit. L'une des listes qui montre le contraire des fruits de l'esprit. Mais nous le sommes, et nous lisons au verset 32, « Soyez bons les uns envers les autres, ayez un cœur tendre, pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu, pour l'amour du Christ, vous a pardonné. » Quelle différence! Quelle image différente! Quelle image de la douceur que nous devons avoir! Être reconnaissant devrait, en chacun de nous, faire ressortir la gentillesse les uns envers les autres. La bonté. Passons à la suivante. Allons à la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9. La deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9. Quelques pages plus loin, verset 11. Celle-ci peut ne pas sembler évidente au premier abord, et je vais essayer de la faire ressortir des Écritures, mais la bonté. Comment cela s'inscrit-il? Je suis reconnaissant, j'éprouve de la gratitude. Le lien avec la bonté devrait être clair, mais voyons comment cela se présente ici. Donc, au verset 11 de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, « Étant enrichi en tout, assurez-vous que je suis au bon endroit, mais étant enrichi en tout pour toute générosité, ce qui nous amène à rendre grâce à Dieu, car l'administration de ce service ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, mais elle est aussi abondante par de nombreuses actions de grâce à Dieu. Tandis que, par l'expérience des ministères, vous glorifiez Dieu pour votre soumission professée à l'évangile de Christ et pour votre libérale distribution envers eux et envers tous les hommes. Il y a beaucoup de mots ici, beaucoup de profondeur, ce qui en fait peut être l'un de ces écrits de Paul qui ne roule pas facilement sur la langue, mais regardons cela. Que dit-on ici? Quel est le rapport avec la bonté? Si nous regardons ces mots ici au verset 12. Et ici je vais m'arrêter au milieu du verset, ce service pourvoit non seulement aux besoins des saints. Donc, le service qui était rendu prenait soin de tous les besoins des saints. Cela ressemble à de la bonté. Cela ressemble à prendre soin des autres et à les servir. Et quel en a été le résultat final, ou comment cela s'est-il finalement conclu? Tous les besoins des saints ont été satisfaits, pris en charge. C'est cela, la bonté. Toute générosité, revenons au verset 11. Toute générosité, qui provient de nous par l'intermédiaire de l'action de grâce à Dieu, finalement rendre grâce à Dieu, finalement être reconnaissant envers Dieu. Et à la fin, Paul fait ici l'éloge des Corinthiens dans la deuxième épître, et pour votre généreuse distribution envers eux et envers tous les hommes. Pour votre généreuse distribution, pour votre généreuse attention et votre service envers tous les hommes, envers tous les saints, afin qu'il n'y ait aucun besoin. Ce serait de la bonté. Ce serait de l'attention. Ce serait faire preuve de bonté envers les saints et envers nos semblables. En étant plus reconnaissants dans la vie, plus reconnaissants pour tout ce qui nous entoure, nous ferons plus de bien aux autres. Nous nous soucierons davantage de nos frères et sœurs et nous les servirons. Nous veillerons aux besoins les uns des autres. Si nous sommes plus reconnaissants pour tout ce qui est fait dans notre vie, nous le partagerons avec tous ceux qui nous entourent. Le suivant, la foi. Passons à Colossiens 2, versets 6 et 7. Colossiens 2, versets 6 et 7. Et la foi, comment elle est liée à la gratitude, à la reconnaissance et à la reconnaissance, en fin de compte, elle renforce notre foi. Elle construit notre foi. Plus nous sommes reconnaissants pour tout ce que Dieu a fait dans nos vies, plus cela renforce notre foi. Passons à Colossiens 2, versets 6 et 7. Nous allons lire. Lisons le verset 6, « Et vous, donc, ayant reçu Jésus-Christ, marchez en lui. » Ainsi, lorsque nous recevons le Christ, marchons avec lui, suivons-le. Et au verset 7, enracinés et édifiés en lui, affermis dans la foi, comme vous l'avez été enseigné, abondant en actions de grâce. Ainsi, nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons reçu Dieu, nous avons marché dans les voies de Dieu, nous avons observé la loi de Dieu, nous avons marché dans les commandements de Dieu, nous avons fait la volonté de Dieu, nous sommes enracinés et édifiés en lui et affermis, établissons notre foi comme nous l'avons été enseignés. Et enfin, nous débordons de reconnaissance et de gratitude pour ce qui nous a été enseigné, pour ce qui a été fait pour nous. Revenons en arrière. Passons à Luc 7, verset 5. Je veux dire, Luc 7, verset 50. J'ai dit que nous reviendrions ici, juste pour avoir le contexte de ce que la femme avait fait pour le Christ, combien d'amour, d'attention et de sollicitude elle avait montré pour le Christ, comment cela avait été un moment d'enseignement pour Simon. Et puis Dieu, le Christ, lui a pardonné ses péchés. Mais finalement, était-ce sa foi? Notre foi devrait suivre son exemple. Et voici ce que le Christ a dit. Et il dit à la femme, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Si nous sommes reconnaissants et que notre reconnaissance et notre gratitude renforcent notre foi grandira. Et finalement, notre foi nous sauvera. Passons à la suivante, la douceur ou l'humilité. Passons à Philippiens 2. Nous en sommes au huitième fruit de l'Esprit, nous parcourrons tous les fruits de l'Esprit, en montrant comment il y a un élément de gratitude dans chacun d'eux. Passons à Philippiens 2, et nous commencerons à lire au verset 1, et nous lirons jusqu'au verset 5. Philippiens 2, verset 1, « S'il y a donc quelque consolation en Christ, s'il y a quelque réconfort dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque tendresse et quelque miséricorde, accomplissez ma joie en ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Que rien ne se fasse donc par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que chacun, dans l'humilité, estime les autres supérieurs à lui-même. La douceur est donc l'humilité. Je voudrais m'attarder sur ce verset, le verset 3, que rien ne se fasse donc par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que chacun, dans l'humilité, estime les autres supérieurs à lui-même. Nous devons faire preuve de douceur. Nous devons faire preuve d'humilité. Nous devons nous voir tels que nous sommes, voir les autres autour de nous. Nous devons estimer les autres meilleurs que nous-mêmes. Continuons notre lecture. Que chacun ne cherche pas son propre intérêt, mais aussi celui des autres. Nous devons faire preuve de douceur. Nous devons faire preuve d'humilité. Nous ne devons pas seulement veiller à nos propres intérêts. Nous ne devons pas seulement chercher à obtenir ce dont nous avons besoin, mais aussi veiller à ce dont les autres ont besoin. Et le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Encore une fois, qui suivons-nous? Qui est notre exemple? Mais la douceur, un fruit de l'esprit, qui est l'humilité, nous aide à voir les autres mieux que nous-mêmes. Elle nous aide à voir les besoins des autres. Ainsi, si nous avons de la reconnaissance en nous, si nous avons de la gratitude, nous pouvons aider, cela nous aide à nous voir nous-mêmes et à voir qui sont les autres. Maintenant, le dernier fruit de l'esprit, la tempérance, peut également être qualifié de maîtrise de soi. Passons à Hébreux 13, verset 5. Nous allons examiner quelques passages bibliques sur ce sujet, sur ce fruit particulier de l'esprit. Commençons par Hébreux 13, verset 5. Nous essayons de voir comment, à travers la tempérance et la maîtrise de soi, se trouve un élément de reconnaissance. Où se trouve l'élément de reconnaissance derrière vous, ou d'être reconnaissant? Et ici, nous allons lire dans Hébreux 13, verset 5, qui parle de la tempérance, de la maîtrise de soi. Que votre conversation soit sans convoitise, et soyez satisfait de ce que vous avez. Car il a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Quelle belle promesse! Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mais avant cela, contente-toi de ce que tu as. Fais preuve de tempérance dans tout ce que tu as. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Soyez reconnaissant pour tout ce que Dieu nous a donné. Et souvenez-vous, car il a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Soyez satisfait de tout ce que nous avons. Même si nous avons très peu, et ce sera en fait plus difficile quand nous aurons beaucoup, souvenez-vous que Dieu sera toujours avec nous. C'est facile de s'en souvenir quand nous avons peu. Dieu nous donne tellement. Quand nous avons beaucoup, nous pensons parfois que nous avons tout. Nous n'avons pas autant besoin de Dieu. Mais que dit le verset ici? Soyez satisfaits de ce que vous avez. Car je ne vous abandonnerai jamais et ne vous délaisserai jamais. Passons à 1 Timothée 6, verset 6. Expliquez un peu cela. 1 Timothée 6, verset 6. Considérons la tempérance. Être satisfait. 1 Timothée 6, verset 6. Mais la piété avec le contentement est un grand gain. C'est avoir de la tempérance. Avoir de la maîtrise de soi, être satisfait de tout ce que Dieu nous a donné, que ce soit beaucoup ou peu. Mais lorsque vous êtes satisfait de ce que vous avez, lorsque vous êtes simplement reconnaissant pour ce qui vous a été donné, c'est un grand gain. C'est une grande bénédiction d'avoir la maîtrise de soi. C'est une grande bénédiction d'avoir un peu de tempérance. C'est une grande bénédiction d'être satisfait de la vie qui nous a été donnée, des bénédictions que nous avons, sans rechercher sans cesse davantage, sans poursuivre sans cesse ce que ce monde recherche sans cesse, mais être satisfait de ce que nous avons est un grand gain. Une attitude de gratitude renforce notre tempérance. Une attitude de reconnaissance pour tout ce que Dieu nous a donné renforce notre tempérance. Donne-nous plus de maîtrise de soi. Maintenant, en revanche, alors que nous venons de passer en revue tous les fruits de l'esprit et que nous avons vu un élément de reconnaissance dans chacun d'eux, passons à Romains 1, verset 21. Nous l'avons déjà fait précédemment avec un autre verset. Faisons-le ici, dans Romains 1, verset 21. Juste pour montrer le contraste, comment à travers tous les fruits de l'esprit, nous avons vu qu'il y a de la reconnaissance derrière, il y a de la gratitude. Lisons ces versets. Le premier verset, Romains 1:21. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Ils étaient ingrats. Ils n'avaient pas de gratitude. Mais ils sont devenus vains dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se prétendant sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en une image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des reptiles, des quadrupèdes et des reptiles. Et cela continue. Mais ils n'ont pas non plus rendu grâce. Nous pouvons le constater dans le monde d'aujourd'hui. Cela contraste avec les fruits de l'esprit. Nous pouvons voir qu'il y en a beaucoup qui sont ingrats pour ce qu'ils ont. Ils sont ingrats pour tout ce que Dieu a créé pour eux. Le monde dans lequel Dieu les a placés. Ils sont ingrats envers leurs semblables qui les entourent. Lisez les gros titres. Lisez les nouvelles. Pensez-vous qu'une nation qui bombarde une autre nation est reconnaissante envers son voisin? Pensez-vous qu'elle montre de la gratitude envers son voisin? Ou celui qui prend et vole à un autre, sous les nombreuses formes que cela prend à notre époque? Pensez-vous qu'il est reconnaissant envers ses semblables? Non, bien sûr que non. Que dit Dieu dans ce verset? Relisons-le. Quel contraste avec ce que nous venons de lire et de voir. Mais parce qu'ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Ils étaient ingrats. Ils ne montraient aucune gratitude. Ils sont devenus vains dans leur raisonnement. Et leur cœur insensé s'est obscurci. Regardez le monde qui nous entoure. Ne voyons-nous pas que leurs pensées sont vaines? Ne voyons-nous pas que leur cœur insensé s'est obscurci parce qu'ils sont ingrats pour tout ce qu'ils ont? Ils n'ont pas, comme nous l'avons vu, ils n'ont pas été amenés à voir les fruits de l'esprit et à grandir dans les fruits de l'esprit. Ils n'ont pas été appelés à suivre la voie de Dieu. Passons au psaume 103. Passons au psaume 103. Nous avons abordé le fait qu'ils sont devenus ingrats. Un élément à juxtaposer aux fruits de l'esprit et à la façon dont la reconnaissance et la gratitude sont présentes dans tous ces fruits. L'humanité en général n'est pas reconnaissante. Elle n'est pas reconnaissante envers Dieu. Elle ne connaît pas son Dieu. Elle ne connaît pas son Créateur. Un jour, elle le connaîtra. Passons au verset 3. J'espère que je tourne la page. Je n'ai peut-être pas écrit le bon verset. Non, je l'ai fait. Je viens de regarder le mauvais verset. Nous y voilà. Commençons par le verset 1. Le psaume 103 bénit le Seigneur, ô mon âme, et tout ce qui est en moi. Bénis son saint nom. Ces mots bénis peuvent signifier gratitude, reconnaissance. Rendre grâce, être reconnaissante envers Dieu, bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie pas tous ses bienfaits. Cela peut aussi signifier, ne soyez pas ingrat. N'oubliez pas tout ce que Dieu a fait pour nous. N'oubliez pas tous les éléments qui, à travers les fruits de l'esprit, sont source de gratitude. N'oubliez pas tout ce que Dieu le Père a fait. L'oubli peut aussi être de l'ingratitude. Tournons la page. Et pour conclure, revenons à Galates 5, verset 22. J'espère que grâce à ce message, vous avez vu un lien. Un lien entre la reconnaissance, la gratitude et les fruits de l'esprit. Pour rappel, relisons les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, et contre de telles choses il n'y a pas de loi. Frères et sœurs, nous avons vu que si nous sommes plus reconnaissants et avons plus de gratitude dans tous les domaines, dans tous les fruits de l'esprit, comme nous le voyons dans tous les fruits de l'esprit, nous grandirons dans tous les fruits de l'esprit.